الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد 5e assise de l'étude de l'écrit ذم قسوة القلب le blâme de la dureté du cœur. Nous passons inshallah ta'ala au 3e volet. قال ابن رجب رحمه الله وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا. Parmi les remèdes de la dureté du cœur, et il y en a beaucoup, فمنها كثرة ذكر الله, l'abondance de ذكر. Qui avait répondu? Mohamed, tiens, tout ce que je peux te donner. L'abondance du ذكر, l'abondance du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab a dit, كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. L'abondance du rappel d'Allah Azza wa Jal, dans lequel la langue concorde avec le cœur. Et là, on va traiter des questions relatives au dhikr. Très intéressantes. Dans lequel la langue concorde avec le cœur. قال المعلى ابن زياد. المعلى ابن زياد, un des salafs, a dit, إن رجلا قال للحسن, un homme a dit à الحسن البصري, يا أبا سعيد, ô أبا سعيد, أشكو إليك قسوة قلبي, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. قال أدنه أدنه من الذكر. Il lui a dit, rapproche-le du ذكر. Il lui dit, mon cœur est dur, ça ne va pas. Al-Hassan lui répond, tu veux que ton cœur guérisse? Rapproche-le du rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah azza wa jal, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les choses les plus formidables. Dhikrullah azza wa jal, je vais vous dire quelque chose qui est impressionnant. Vous savez que, inshallah, quand vous allez tous entrer au paradis, bi'idhnillah azza wa jal, vous allez vous dire, tu te rappelles de l'assise, hein, ذم قسوة القلب, بإذنالله عز وجل. Les gens au paradis n'auront plus à adorer Allah, vous le savez. Il n'y aura plus de prière, de jeûne, halal, haram, ça y est. Au paradis, c'est le repos éternel, la félicité, la réussite, le délice. Sallallahu an yukrimana. Qu'Allah nous honore par ce grand bienfait. La chose qui va continuer dans le dhikr, dans le paradis, je me suis piégé, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est une ibada. Elle, fil jannah, elle va continuer. Les gens, ils vont continuer le tasbih fil jannah. Vous voulez quelque chose d'encore plus extraordinaire? C'est que le dhikr fil jannah ne sera plus une adoration. Ça sera un délice du paradis. Ça sera un délice du paradis. Allahu Akbar. Le dhikr, c'est très important. Le dhikr, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me rappelle d'Allah. Je sais qui je suis. Le serviteur d'Allah. La servante d'Allah. L'esclave de mon Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas l'oublier. Je n'oublie pas de jouir de ses bienfaits qu'il m'a octroyés. De manger la subsistance qu'il m'a offerte. Comment pourrais-je l'oublier? Lorsque je mange, comment manger sans évoquer le nom d'Allah? Quand j'ai terminé de manger, comment ne pas remercier Allah Azza wa Jal? Dans ta journée, comment ne pas penser à Allah? Les gens ont tellement le cœur dur qu'ils disent, dans leur façon de parler, dans leur discussion, vous l'avez tous vu, sûr, ils disent, oui, mais même d'un point de vue de la raison, sans regarder la religion, normalement, on ne devrait pas faire ceci et cela, n'est-ce pas? Vous voyez ces façons de parler. Comment ça sans regarder la religion? La religion, elle est dans tes veines. Elle est dans tes veines, la religion. Dans ton cœur, dans ta vie, dans tout. Ton regard, il est avec ton dîn. Ton regard, il est avec ton dîn, avec ta religion. Ton ouïe, tu écoutes avec ton dîn. Tu appliques, tu délaisses avec ton dîn. Tu es heureux avec ton dîn. Comment tu pourrais dire que la religion, on la met de côté. On met pas la religion de côté. On met on met notre identité de côté. On se rappelle d'Allah tout le temps, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné de l'évoquer, mais pas seulement, de l'évoquer abondamment. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran. Ô vous qui avez eu la foi, évoquez Allah abondamment, beaucoup. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Et ceux et celles qui évoquent Allah abondamment, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Subhanahu wa ta'ala. Les savants se sont intéressés à la question suivante. Comment être considérés comme des gens qui invoquent Allah abondamment? Ils ont dit, lorsque tu fais tes invocations quotidiennes, les invocations du matin et du soir, d'après les prières, en entrant chez toi, en sortant, en allant à la mosquée, en entrant à la mosquée, en sortant, au souk, au marché, lorsque tu réunis tous ces adhkar, alors tu fais partie des gens chez Allah qui invoquent Allah abondamment. Subhanahu wa ta'ala. Des fois, dans la lecture du Coran, vous savez, il y a certains masahif, il y a certains livres du Coran où le nom Allah est en rouge. Vous les voyez, ces masahif. J'ai une réflexion dont je voudrais vous faire part. Je remarque dans toutes les pages, Allah, 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 Allah. Méditez maintenant sur ça. Et en lisant comme ça, je me suis dit, Allahu Akbar, en fait, par ce Coran, Allah veut vraiment qu'on évoque son nom, en fait. On ne l'oublie pas, on l'évoque tout le temps. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le prophète, alayhi salatu wa salam, évoquait Allah dans toutes les situations. En allant se coucher, en se réveillant, s'il fait un cauchemar, en mangeant, s'il a oublié de dire le nom d'Allah, il y a une parole à dire. Quand tu manges, quand tu es éprouvé, quand tu es triste, quand une chose est difficile et tu demandes à Allah qu'elle soit facile, quand tu arrives au matin, quand tu arrives au soir, quand tu sors, quand tu reviens, quand tu marches, quand tu entres dans le marché où tu vas vendre et acheter, devant un ennemi, devant quelque chose que tu redoutes, dis-moi, n'importe quelle situation, et tu trouveras un dhikr. Bi-idhnillah azza wa jalla. Et si tu médites sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, du début jusqu'à la fin, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, elle se résume dans deux mots. Dhikrullah. Subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour le Coran. Dhikrullah azza wa jalla. Le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est intéressant de méditer ce qu'il a dit. Il a dit, ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. Que parmi les remèdes de la dureté du cœur, il n'a pas que dit le rappel d'Allah, mais le rappel d'Allah dans lequel le cœur est mêlé à la langue, concorde avec la langue. Et là, on va voir qu'en réalité, il y a trois étapes, trois degrés de dhikr. Premier degré, ذكر القلب. Le dhikr du cœur. Il se manifeste lorsque, par exemple, tu aimes Allah, tu crains Allah, tu penses au jour dernier et tu crains ta destination. Tu espères qu'Allah Azza wa Jal te délivre de l'épreuve qui te touche, te guérisse. Tout ça, c'est dans le cœur. C'est un dhikr. Tu penses au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal après les avoir étudiés. À la méthodologie des salafs. Tu comprends les noms correctement, les attributs d'Allah correctement, et tu médites sur la grandeur. Et les salafs, ils avaient une ibada, ils disaient cette ibada, elle a été beaucoup délaissée. Alors que dire à cette époque-là? C'est ibada tout tafakkur. C'est la méditation. Et la vraie méditation. Dont Allah a parlé, par exemple, dans Sourate Ali Imran. Inna fi khalqi samawati wal ard. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour. La ayatin li ulil albab, des signes pour ceux qui méditent. Qui sont ces gens-là? Alladhina yadhkuruna Allah qiyama, ceux qui évoquent Allah debout, wa qu'uda, assis, ou ala junubihim, et couchés sur leur flanc. Wa yatafakkarun, et ils méditent. Wa yatafakkarun fi khalqi samawati wal ard, sur la création des cieux et de la terre. Et cette méditation-là du cœur les pousse, ce dhikr du cœur les pousse à un dhikr de la langue. Ils disent, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô Seigneur, tu n'es pas créé ça inutilement. Subhanak, exempt sois-tu de toute imperfection. Faqina adhab an-nar. Protège-nous alors du feu de l'enfer. Ça, c'est dhikr al-qalb. C'est le plus important. On va dire que c'est la base. On va pas dire que c'est le plus important, c'est la base. Ensuite, dhikr al-lisan. Le dhikr de la langue. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire, c'est un dhikr, un dars. Le fait de dire subhanallah, le fait de dire assalamu alaykum, ça, c'est un dhikr verbal de la langue. Et tout ce qui se fait avec la langue. Al-nasiha, quand tu fais nasiha à ton frère, c'est un dhikr de la langue. Ensuite, dhikr al-jawarih, le dhikr des membres. Ta salat, c'est un dhikr. Ta salat, c'est un dhikr. Ce sont des gestes que tu fais pour Allah. Azza wa Jalla, le hajj, ce sont des gestes que tu fais pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les remèdes de la dureté du cœur, c'est le dhikr dans lequel la langue accompagne le cœur. Parce qu'il y a plusieurs degrés. Il y a le dhikr que tu fais avec ta langue sans l'accompagner du cœur. C'est une bonne action, c'est récompensé, mais ce n'est pas le dhikr avec le cœur. C'est pas pareil. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ont cité que les effets du dhikr sur la personne, en termes de bien-être et ainsi de suite, de proximité avec Allah, d'augmentation de foi, dépendent de la présence du cœur pendant la prononciation de ces adhkars. Et cette présence du cœur, elle vient avec la compréhension de ces adhkars. D'où l'importance de comprendre le dhikr. Il ne s'agit pas simplement de paroles comme ça, tu apprends par cœur, tu le répètes. Mais qu'est-ce que tu en as compris? Les paroles de dhikr, elles sont remplies de asma wa sifat, de noms et d'attributs d'Allah, de tawhid, de iman, de foi. Quand tu fais un dhikr avec ta langue et que ton cœur est là, c'est ce dhikr-là particulièrement qui va être puissant et qui va remédier au cœur dur. Aucun cœur dur ne peut résister à ce dhikr-là. Wallah, aucun. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour celui qui sent le cœur dur. Mais ça ne veut pas dire que ça va venir comme ça, un claquement de doigts. Tu fais un dhikr, alhamdoulilah, toute ma foi est revenue. Non, c'est un travail. C'est un travail à faire à la longue. Tu fais du dhikr et tu demandes à Allah Azza wa Jal que ce dhikr te soit utile. Et tu t'efforces d'apprendre le dhikr. Allah Azza wa Jal nous a facilité de faire des assises sur la compréhension des invocations et rappels. Ça peut vous aider, incha'Allah ta'ala. Ça peut m'aider et vous aider, incha'Allah ta'ala. Et les audios sont disponibles dans le site, la voie droite. Donc, Ibn Rajab, rahimahullah, dit le dhikr dans lequel le cœur accompagne la langue. Médite sur la salat. La salat, il y a tous les adhkars dedans. Il y a le cœur, les membres et la langue. C'est pour ça que c'est une des plus grandes ibadas. Et c'est pour ça, salatul layl, la prière de la nuit, c'est une des plus grandes ibadas. Pourquoi? Parce que il y a le cœur, du moins, ce qui est demandé pour une salat correcte, c'est le cœur, la langue et les membres. Ça réunit le dhikr d'Allah Azza wa Jal. En termes de dhikr, il faut absolument prononcer, bouger la langue. On dit pas, je suis comme ça, là je suis en train de dire subhanallah. Comme on le constate dans le soufisme, etc. J'ai prié à côté de quelqu'un en sujoud, la tête au sol, aucun mot qui sort de sa bouche. Parce que pour eux, dans leur conviction qui n'est pas correcte, qui est erronée, il suffit juste de penser à Allah comme ça. Tu penses à Allah, tu penses. Et là, tu es dans un dhikr puissant. Non, ça c'est dhikr shaytan, c'est pas dhikr Allah. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, le dhikr, il doit être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, des fois, on dit conforme à la sunna, et quand on dit conforme à la sunna, on va directement sur les règles apparentes. Et ça, ça fait partie de la sunna. Mais conforme à la sunna, avant ça, veut dire que ton cœur est là. C'est ça un dhikr conforme à la sunna. C'est ça une invocation conforme à la sunna. Tu invoques Allah Azza wa Jal et ton cœur est présent. Et les savants ont divergé sur la question suivante. Quand on dit que le cœur doit être avec la langue, est-ce que ça veut dire que d'abord on fait du dhikr avec le cœur, c'est-à-dire on pense à Allah Azza wa Jal, à la grandeur d'Allah, etc. Puis on enchaîne avec le dhikr de la langue, qui sera donc le résultat de ce qu'il y a dans le cœur comme dhikr, ou alors on commence par le dhikr de la langue et tellement on en fait, ça va attirer le cœur à la concentration. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Donc vous voyez que dans le dhikr, il n'y a que du khair. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Également, quand tu fais du dhikr, à la base, tu dois le faire avec humilité et tu n'as pas besoin de déranger tes voisins. C'est-à-dire que tu es dans ta salat, ton voisin n'a pas besoin de t'entendre. Tu fais ton invocation, ton voisin n'a pas besoin de t'entendre. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois, il y a des adhkars qui se font à voix haute. At-talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Quand tu fais ta amra, ton pèlerinage, ça c'est à voix haute. Al-adhan, c'est un dhikr, ça se fait à voix haute. La prière du maghreb, du isha, du fajr, la récitation du Coran, c'est un dhikr, ça se fait à voix haute. Donc il y a des adhkars qui se font comme ça, à voix haute. D'autres, discrètement. Et on ne les fait pas en groupe. Les adhkars ne se font pas en groupe. Le dhikr, c'est individuel. On ne se met pas ensemble pour dire subhanallah, walhamdulillah, ou alors asbahna, asbaha al-mulku lillah, les invocations du matin ou du soir, et on fait ça en groupe. Non, ça, ce n'est pas correct. Les invocations, c'est individuel. Dans la lecture du Coran également, la lecture du Coran, il faut faire ça à voix haute. Pas très fort, bien sûr, pour déranger s'il y a des gens autour de toi, mais tu ne lis pas le Coran comme ça, la bouche fermée, comme tu lis un livre. Moi, sincèrement, quand je vois ça, ça me dérange. Des fois, tu vois, tu rentres dans la mosquée, il y a plein de gens, ils sont tous silencieux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an » Ne fait pas partie de nous, celui qui n'enjolive pas sa voix par le Qur'an. Et ça, ça t'aide au tadabbur, ça t'aide dans la méditation. Mais si tu lis juste comme ça avec la bouche fermée, c'est une lecture qui est différente. Et d'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wassalam dit alifun harf, mimun harf, lamun harf, mimun harf, c'est que dans le hadith, une lettre récitée, on te donne 10 hasana. Ça, c'est quand tu fais avec la langue qui bouge, pas avec la bouche fermée et tu lis. Tout ça, c'est très important aussi. Et lever la voix, c'est meilleur si ça ne dérange pas. Si ça ne dérange pas les gens autour de toi. Des fois, tu es dans la mosquée, dans des situations. Ça m'est arrivé il n'y a même pas une semaine, où la personne qui priait à côté de moi faisait des invocations, sa voix était trop forte. Elle m'a déconcentré, elle me perdait, je ne savais même plus combien de fois j'avais dit Subhana Rabbil A'la dans le sujoud. Il disait Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, et A'udhu Billah min ash-shaytan ar-rajim. Ils ont des bonnes intentions, on ne remet pas ça en doute. Mais tu déranges ton frère à côté de toi, il a besoin aussi de se recueillir. Les invocations, des fois, les invocations, elles se divisent en deux. Al-adhkar al-mutlaqa, al-adhkar al-muqayyada. Les invocations non rattachées, on les appelle absolues, et les invocations rattachées. Quelle est la différence? Al-adhkar al-mutlaqa, les invocations non rattachées, sont des invocations que tu peux faire n'importe quand, n'importe où. Elles ne sont pas rattachées à quelque chose, à une cause, à un endroit, à un temps, à rien de ça. Comme par exemple, tu es là, tu as envie de dire Subhanallah, Astaghfirullah, Alhamdulillah, comme ça, spontanément. Ça, ce n'est pas rattaché. Il y a Al-Adhkar Al-Muqayyada. Il y a les invocations qui sont, elles, rattachées. Rattachées, elles sont rattachées à plusieurs choses. Elles peuvent être rattachées à un endroit. Elles peuvent être rattachées à une période. Elles peuvent être rattachées à une situation qui se produit. À un endroit, par exemple, donnez-moi un exemple d'une invocation, d'un zikr qu'on fait par rapport à un endroit. Syrie? Arafat? Le marché? Le tawaf? Ça, c'est des situations. Quand tu rentres dans la mosquée. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ça, c'est rattaché à l'endroit de la mosquée. Ça, c'est l'endroit. Maintenant, des invocations, des adhkars, des dhikrs, des adhkars qu'on prononce et qui sont rattachés à, donc là, on a dit un endroit, à une période. Comme... Mais encore, ça ne va rien dire, lors du Hajj. Quoi? Je veux un dhikr qu'on dit dans une, dans un, Nabil? Les invocations du matin et du soir. Ça, c'est rattaché à un temps. On a dit à une situation.
Celui qui est angoissé, attristé.
Il y a une invocation pour ça. Qu'est-ce qu'il faut dans le dhikr, dans la sunna? Qu'est-ce qu'il faut respecter? Tu n'as pas le droit de rattacher les invocations non attachées et tu n'as pas le droit de détacher les invocations rattachées. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que les invocations du matin et du soir, l'invocation que tu fais le matin, tu la ferais après l'asr. Et tu dis, non, moi je la mets là. L'asr, mashallah, c'est un bon moment. Je la mets là. Tu peux faire ça? Tu peux pas faire ça. Oui, Mahmoud.
Après, il y a des invocations où on évoque vraiment le matin, mais il y a des invocations où c'est, par exemple,
Non, mais c'est pas grave. L'exemple, c'est pas grave. Développe ce que tu veux dire.
En fait, il y a des invocations que... En fait, il y a des invocations qui font partie du matin et du soir, mais qu'on peut les dire en dehors de ces moments-là.
Il n'y a aucun problème.
Ah non.
Moi, j'ai dit, tu détaches. Toi, tu me dis que tu l'as fait, ton invocation, le matin et le soir. Ouais. Et après, tu as envie de la dire comme ça. Personne ne te blâme. Mais toi, tu la détaches de son temps, tu la mets dans un autre temps. Tu comprends la différence? Bon, après, bien sûr, si c'est Asbahna ou Asbahna, Asbaha, ça, tu peux pas faire, d'accord? Donc, il y a certaines invocations. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Tu le fais le matin et le soir, mais tu le fais aussi quand tu veux. Mais les invocations du matin et du soir, tu ne les détaches pas du matin et du soir. Pareil pour les yeux, pareil pour les lieux, pareil pour les situations. Donc ça, ce sont j'en ai perdu ce que je voulais dire. La ilaha illallah. Ce sont des situations. Ne culpabilise pas, Mahmoud. Ce sont des situations qu'il faut comprendre et qu'il faut respecter. Il faut respecter. En matière de dhikr, est-ce que l'on doit utiliser un objet ou quelque chose pour compter les adhkar? La sunna, c'est de faire avec ta main, avec tes doigts. Et dans le hadith, ya'qidu. Al-aqd, vraiment le aqd, c'est quoi? C'est de faire ça. C'est-à-dire, subhanallah, 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 tu peux faire ça aussi. C'est-à-dire, tu refermes le doigt jusqu'à la paume de la main. Tu peux faire en ouvrant après. Et tu peux aussi faire avec les phalanges. Subhanallah, subhanallah, c'est permis aussi. Subhanallah, 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 avec les phalanges. Ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salam. Les doigts témoigneront pour toi, le jour dernier. Par la suite, certains ont utilisé les subhan, le chapelet. Et il y a certains savants qui ont été très durs dans ça, dans la question du chapelet. Qui ont dit que non, c'est une innovation, et il faut s'arrêter et se contenter de ce qui est prescrit. D'autres ont dit, c'est permis totalement. D'autres ont dit, c'est entre les deux. Quelqu'un qui est incapable de faire avec ses doigts, de savoir où est-ce qu'il en est, on va pas lui empêcher de compter. On va pas lui empêcher de compter ses adhkar, sinon ça va être trop dur pour lui, il va pas s'en sortir. Mais quelqu'un qui peut, qui sait compter, on lui dit, tu fais avec tes doigts, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. L'essentiel, c'est toujours de repousser les gens vers le meilleur, de repousser les gens vers la sunna, tout en prenant en compte la situation des gens. Sinon, on va faire des dégâts, comme beaucoup de le font malheureusement. Quand tu cries sur une personne qui comprend rien à ce que tu es en train de lui dire et tu lui dis « bid'a, bid'a », alors que peut-être que la personne elle est dans l'incapacité, peut-être qu'elle a une raison. Donc il faut prendre en compte la situation des gens, tout en encourageant tout le monde à revenir à la sunna et à comprendre que c'est la voie claire qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut suivre. Barakallah. Il y a plein de choses. Les savants ont divergé. Il y a plein de questions sur le dhikr. On va pas tout étaler. Les savants ont divergé sur quelles sont les meilleures paroles de dhikr. Certains ont dit, en se basant sur le hadith rapporté par le Bukhari, les paroles les plus aimées d'Allah, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et ça, nul doute que ça fait partie des paroles les plus aimées d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, le hadith est authentique. Certains ont dit, c'est la parole Alhamdulillah. Parce que dans un autre hadith rapporté par le muslim, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah est une parole qui remplit la balance de bonnes actions le jour dernier. Ils ont dit ça, ça prouve qu'Alhamdulillah, c'est la meilleure parole. Quand tu réfléchis bien, elle entre dans les quatre paroles. Vous voyez? Elle entre dans les quatre paroles. Et aussi parce que, la parole Alhamdulillah, elle englobe Allahu Akbar et Subhanallah. On va pas détailler ça, mais de manière générale, le sens de Alhamdulillah, c'est toutes les louanges reviennent de droit à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est juste une traduction rapprochée. Mais quand on dit Alhamdulillah, en fait, on est en train de reconnaître à Allah Azza wa Jal toutes les perfections, toutes les qualités qu'Allah a. Toutes les perfections. On est en train de dire qu'Allah est parfait dans tous ses noms et attributs. Donc ça englobe Allahu Akbar. Et ça englobe Subhanallah. Parce que Subhanallah sert à décrire Allah comme étant loin de toute imperfection. C'est pour ça que souvent Alhamdulillah et Subhanallah, ils vont ensemble dans le Coran. Et dans les hadiths. Subhanallah wa bihamdihi. Et on trouve dans plein de versets Subhanallah et Alhamdulillah qui vient après. Parce que Subhanallah, c'est pour dire, je suis convaincu qu'Allah n'a aucune imperfection. Une fois que j'ai fait ça, Alhamdulillah. Je suis convaincu qu'Allah a toutes les perfections. Mais si on ne disait que Alhamdulillah, ça sous-entendrait aussi Subhanallah. On va pas s'élargir dans ça. Certains ont dit que c'est At-Tahlil, que c'est La ilaha illallah la meilleure parole. Pourquoi? Parce que c'est Kalimatu Tawhid. C'est la parole du Tawhid qui est la base même de l'islam. Donc, quoi qu'il en soit, au final, les quatre paroles, elles réunissent tout ça. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nous, on est en train d'apprendre que le dhikr, fait partie des meilleurs remèdes. Il l'a cité en premier, Ibn Rajab, rahimahullah, pour guérir le cœur dur. Et qu'est-ce qu'on voit? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qui n'est pas capable de dire ça? Dans ta journée, répète. Répétez, s'il vous plaît, j'en ai besoin, moi aussi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc ça, c'est très important. Il y a quatre adorations qui sont, on va dire, qui sont rattachées à des règles. On va vous les citer dans l'ordre avec celle qui est d'abord la plus stricte en termes de règles. Premièrement, c'est la salat, la prière. Elle est rattachée à des règles précises. Tu ne peux pas la faire sans être pur, sans les ablutions. Tu ne peux pas la faire sans être en direction de la Qibla. Les gestes que tu fais ne viennent pas de ton choix. Ils sont précis. Tu dois les apprendre et les appliquer. Tu n'as pas le droit de couper ta salat. Tu n'as pas le droit d'introduire dans ta prière ce qui n'en fait pas partie. La prière fait donc partie des adorations les plus rattachées, les plus réglementées. Voilà le mot. Les plus réglementées. Après la prière, il y a la récitation du Coran. Elle est aussi réglementée. À la base, la récitation du Coran, quand tu portes le mushaf, tu le fais avec les ablutions. Tu le fais avec méditation. Le but de la lecture, c'est de le méditer. Tu ne dois pas t'occuper d'autre chose pendant que tu lis. Tu ne coupes pas ta lecture comme ça pour rien, sauf pour quelque chose de sérieux comme répondre à l'appel à la prière. Ça, c'est la lecture du Coran. Elle est très réglementée, mais moins que la prière. Vient juste après al-dhikr, le dhikr. Le dhikr, lui, il est réglementé aussi, mais moins que la lecture du Coran, moins que la salat. Le dhikr, il est recommandé parce qu'on a vu que il y a les adhkars du matin, du soir, en entrant, en sortant, en faisant telle chose, en constatant telle chose, et ainsi de suite, à voix haute, à voix basse. Voilà, c'est réglementé. En dessous de ça, et c'est plus large, il y a ad-du'a, les invocations. Les invocations, c'est plus large. Tu peux n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quel endroit, sauf si c'est un endroit, bien sûr, qui est impur, etc. Pas dans les toilettes, voilà, vous avez compris. Tu invoques Allah Azza wa Jal selon tes demandes. Tu lui demandes ce dont tu as besoin. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est réglementé, tu ne dois pas le déréglementer. Et ce qui est ouvert, tu ne dois pas le restreindre. Si tu as compris ça, alhamdulillah, tu as un bon principe, inshallah ta'ala, pour la question du dhikr. Al-Hassan, rahimahullah, quelqu'un est venu le voir et lui a dit « Je me plains à toi, je sens que mon cœur est dur. » Il lui dit « Rapproche-le du rappel d'Allah. » Et parmi les meilleures façons du rappel d'Allah, Azza wa Jal, par lesquelles Allah nous honore, c'est quoi à votre avis? Ces assises-là, les assises de science. À un point tel où Allah, Azza wa Jal, a créé des anges auquel il a confié la mission de parcourir la terre à la recherche de ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal. Et dès que ces anges, parcourant la terre, recherchant ceux qui évoquent Allah, les trouvent, ils s'arrêtent et s'appellent les uns les autres. Venez, on a trouvé ce qu'on cherche. Ils se mettent alors à les recouvrir. Et Allah Azza wa Jal leur demande ce qu'ils veulent. Eux lui répondent qu'ils veulent le paradis, qu'ils craignent l'enfer. Allah Azza wa Jal va leur dire, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Non. Est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Non. Il dit, je vous prends alors à témoin que je leur ai pardonné leurs péchés. Allahu Akbar. C'est incroyable. Et là, un ange dit à Allah, « Oh Allah, il y avait parmi eux un tel, qui ne fait pas partie d'eux. Il est venu juste pour un besoin. » Comme quelqu'un là qui vient te voir parce que c'est ton frère et tu as la clé de la maison et il passe juste pour récupérer la clé et de passage comme ça, il nous voit assis, il s'assoit. Lui, à la base, il n'est pas venu dans la niya d'assister à une assise de dhikr. Allah Azzajal répond à cet ange, « Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. » Ces gens-là, leur fréquentation ne sera jamais attristée. C'est-à-dire, lui aussi, il en fait partie. Puisqu'il a passé un moment avec eux, même s'il n'avait pas la niya, l'intention de s'asseoir pour le dhikr, il s'est collé à eux. Allez, on lui donne aussi le pardon. Allahu Akbar. Donc ça, c'est une grande ni'ma de pouvoir se réunir pour parler d'Allah Azza wa Jal. Et plus que ça, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de parler selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'efforçant de dire des propos explicites, clairs, puisés des textes du Coran et de la sunna, compris à la manière des pieux prédécesseurs. C'est parmi les plus grands bienfaits de ta vie. Et c'est pour ça que les salafs, certains avant de mourir, disaient « La seule chose qui me manque, c'est l'assise avec, les assises avec mes frères. » Les assises de rappel, les assises de science. Ça, c'est subhanallah, c'est un ni'ma d'Allah sur nous. Allahumma lak alhamd. Alhamdulillah. C'est une grande ni'ma. Tayyib. Ensuite, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, وقال وهب بن الورد أو الورد نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. الوهب بن الورد des salaf a dit, j'ai observé ce hadith et je n'ai pas trouvé quelque chose qui soit plus adoucissant pour le cœur et plus attirant de la vérité que la lecture du Coran pour celui qui le médite. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai médité sur ce hadith? Il y a deux éventualités possibles. Soit il a médité sur le hadith ou certains hadiths qui traitent de ce sujet-là, et il en a eu cette conclusion-là. Soit il a médité de manière générale sur la science du hadith, et il s'est aperçu que la lecture du Coran, c'est ce qui adoucit le cœur le plus. Et certains savants avaient blâmé les spécialistes de la science du hadith qui ont donné beaucoup d'intéressement, d'importance à la science des chaînes de transmission. Plus que le texte qui est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils les ont blâmés pour ça parce que ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est le texte. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce salaf nous dit qu'il a médité et qu'il s'est rendu compte que ce qui adoucit le cœur le plus, c'est la lecture du Coran. Et ce qui ramène la vérité le plus dans ton cœur, c'est la lecture du Coran en le méditant. C'est-à-dire que si tu veux revenir à la vérité, tu lis le Coran, tu le médites. Il n'y a pas quelque chose qui t'attirera plus de la vérité que la lecture du Coran avec sa méditation, ce qui sous-entend de le comprendre et ce qui sous-entend d'apprendre, d'étudier. D'où l'importance d'apprendre ton din, d'apprendre ta religion afin de la comprendre comme il se doit. Parce que Allah Azza wa Jalla dit inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste. Ibn Rajab a dit, wa qala Yahya ibn Mu'adh wa Ibrahim al-Khawwas dawa'u al-qalbi khamsatu ashiya. Deux salafs, Yahya ibn Mu'adh, Ibrahim al-Khawwas, ont dit, le remède du cœur réside dans cinq choses. Premièrement, qira'atu al-Qur'an, la récitation du Qur'an. Deuxièmement, bien sûr, la récitation du Coran avec méditation. Deuxièmement, vider son ventre. Il sous-entend ne pas trop manger. Troisièmement, qiyam al-layl, prier la nuit. Quatrièmement, at-tadarru'u 'inda as-sahar. S'humilier devant Allah à la fin de la nuit. Cinquièmement, mujalasatu salihin, s'asseoir avec des gens vertueux, comme ce qu'Allah m'a permis aujourd'hui. Et je le remercie pour ça. Subhanahu wa ta'ala. Étudions ces cinq choses-là. Premièrement, il y a la lecture du Qur'an. Nul doute que celui qui médite le Coran, son cœur va se rétablir, incha'Allah ta'ala. Un cœur ne peut pas résister à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut s'efforcer de lire le Coran avec la niyya de se soigner, de se réformer. C'est ça le but. Le but n'est pas de réciter le Coran par cœur et ne rien changer de ta vie. Et c'est pour ça que les sahaba, radiyallahu anhum, apprenaient 10 versets du Coran, ils apprenaient le tafsir, ils les appliquaient, et ensuite ils apprenaient 10 versets, et ainsi de suite. Et ils mettaient du temps à terminer, ne serait-ce que surat al-Baqarah. Et chez les sahaba et les salafs, chez les sahaba, les salafs, quand quelqu'un avait clôturé la mémorisation de surat al-Baqarah, ils lui accordaient un profond respect. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était un savant. Parce qu'il ne s'agissait pas que de la mémorisation. Il comprenait toute la sourate du début à la fin. Et c'est dans le Baqarah qu'il y a la majeure partie des règles de jurisprudence. Donc c'est un alim. C'est un savant. Et il le respectait. Il le voyait grand dans leurs yeux. C'est comme ça que les salafs étaient avec le Coran. C'est pour ça qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, j'ai entendu des gens dire que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a récité le Coran entier sans faire tomber aucune lettre, c'est-à-dire sans erreur. Un bon tajwid, une bonne récitation. Il dit alors qu'il a fait tomber tout le Coran, parce que je ne vois en ces gens-là aucun comportement du Coran ni application du Coran. Oh combien ces gens sont nombreux, qu'Allah n'augmente pas leur nombre. À son époque, l'époque des salafs, qu'est-ce qu'il va dire à notre époque-là ? Allah musta'an. La deuxième chose, khala'ul batn, on en a déjà parlé, hein, vider son ventre, ne pas trop manger. La troisième chose, qiyamul layl, et on peut l'associer à la quatrième, at-tadarru'u 'inda as-sahar, s'humilier devant Allah au dernier tiers, à la fin de la nuit, as-sahar. Qiyamul layl, sharaful mu'min, c'est l'honneur du musulman, Allah l'élève. Il élève, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu pries la nuit, tu es plus enclin à la concentration, à la quiétude, à la sérénité. Parce que les gens soit dorment, soit sont dans les péchés ou dans des occupations licites. Mais ils sont occupés ailleurs. Et il n'y a pas beaucoup de bruit, tu es dans le calme, tu te lèves, tu fais ne serait-ce que 2 raka'a pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu te fends d'humilité devant lui et tu lui fais part de toutes tes demandes. Je vous pose une question. Quel est le moment ou la situation où le Seigneur est le plus proche de son serviteur, celui qui s'élève la main? Taïb, mashallah, il y a plein de frères qui ont levé la main. Mohamed? La prosternation. Vous aussi, vous confirmez. Qui ne confirme pas? Yannis, tu ne confirmes pas?
Proche,
c'est propre. Non, non. Proche, c'est non, je ne veux pas que tu parles. Je veux que tu confirmes ou que tu ne confirmes pas?
Moi, j'ai juste dit que je ne confirme pas.
Tu ne confirmes pas. Taïeb. Est-ce que vous avez entendu la question? La question est, je vais vous raconter une anecdote. La question est, quel est le moment où le Seigneur est le plus proche du serviteur? Je n'ai pas dit quel est le moment où le serviteur est le plus proche. Vous connaissez Ali ibn Sulayman? Taïb, c'est notre frère, on a étudié ensemble. Ni'am al-rajul, hafidhahullah, sallallahu barika fi. Un da'i. بمعنى الكلمة فيما أحسب والله حسيبه أسأل الله أن يرفع درجته وأن يزيده توفيقا وثباتا un داعي avec le sens du terme إن شاء الله تعالى et c'est Allah qui connaît les gens et c'est lui qui est plus à même de les juger. Ali un jour dans une assise où il y avait Abu Talha a dit quel est le moment où le Seigneur est le plus proche de son serviteur. Ibrahim c'est empressé. Je sais pas s'il m'écoute. Il va m'en vouloir, c'est pas grave. Il s'est empressé, il a dit, ce que vous avez dit, c'est le sujoud, la prosternation, parce que dans le hadith, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est la prosternation. Ali lui a dit, reste à ta place. Je connais pas les mots exacts. Pourquoi? Parce que la question était quel est le moment où le Seigneur est le plus proche de son Seigneur. Et là, il y a un autre... le Seigneur est le plus proche de son serviteur. Et là, il y a un autre hadith. أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Le moment où le Seigneur est le plus proche de son serviteur, c'est le dernier tiers de la nuit. Alors imagine-toi maintenant, dans le dernier tiers de la nuit, tu es en sujoud. Là, tu as tout gagné. Au dernier tiers de la nuit, au moment où Allah Azzajal est le plus proche de toi, toi, tu te rapproches le plus de lui aussi. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu penses d'un Seigneur si parfait, si bon, si riche? Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Razaq, Al-Mannan, Al-Karim, Al-Shafi, Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu penses de lui si tu l'invoques avec le cœur? Et tu lui demandes, « Ya Allah, je veux telle et telle chose. » Tu penses qu'il ne va pas te répondre? Il va te répondre, Inch'Allah ta'ala, mais patiente. Continue à lui demander et patiente. « Allahumma la tahrimna min fadlik, ya rabbal alamin. » Vous savez, il y a certains salafs qui rendaient visite à des gens au dernier tiers de la nuit. On lui disait, « Mais pourquoi tu fais ça au dernier tiers de la nuit ?» Les gens doivent être fatigués ou je ne sais quoi. Il dit, mais c'est possible qu'on dorme au dernier tiers de la nuit? Mais pour eux, c'était, qu'est-ce que tu me racontes? Au dernier tiers de la nuit, au moment où Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas, se rapproche de son serviteur, exauce les invocations, il y a des gens qui dorment? On est loin. On est trop loin d'eux. Allah Moustan. Ensuite, il dit, Mujalasatu salihin, la fréquentation des gens pieux. La fréquentation des gens pieux, c'est un bien immense. C'est la même, ça veut dire la fréquentation. Quand on dit s'asseoir avec des gens, c'est-à-dire fréquenter. C'est pas que l'action de s'asseoir. Naam. Naam, atabarra'u 'inda as-sahar, le fait de se fendre d'humilité devant Allah Azza wa Jalla. Au moment de la fin de la nuit, soit ça peut être dans Qiyamul Layl, dans la prière de la nuit, soit ça peut être en invocation, tout simplement, où tu es là, à ce moment-là, tu invoques Allah, tu regrettes tes péchés, et tu penses au bienfait d'Allah Azza wa Jal, et tu regardes en face les péchés que tu as commis, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tu penses à ton lien avec Allah, tu te remets en question, et tu lèves tes mains, tu supplies Allah, tu lui demandes, ou alors en prière, en prosternation, tu reconnais tes péchés, tu demandes pardon à Allah, tu t'humilies, Tu reconnais sa grandeur, ta petitesse, sa force et ta faiblesse, sa richesse et ta pauvreté, sa connaissance et ton ignorance. Tu reconnais tout ça, tu t'humilies devant Allah Azza wa Jal. Ensuite, la bonne fréquentation. Nul doute, subhanallah, quand tu fréquentes quelqu'un de pieux, même si tu as le cœur dur, même si tu es un pécheur, au minimum, ton péché, tu vas pas le faire quand tu es avec cette personne. C'est un vaccin, une protection. Et au plus, tu vas prendre exemple sur cette personne-là. Et subhanallah, des fois, il y a des ulama, des savants, tu le regardes juste marcher, ça te fait effet. Des ulama, tu entends juste sa voix, wallahi, ça te fait effet. Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Tu écoutes juste sa voix, tu sens le khawf min Allah azza wa jal. Tu sens le khashya. Tu sens la taqwa, tu sens la piété quand il parle, quand il conseille les musulmans. Tu sens quelque chose. Wallah, ça se sent, subhanallah. Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et ainsi de suite. Le fait de les fréquenter, vous savez ce qu'il dit, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, il dit, si tu suis les salafs, les sahaba, c'est comme si tu les fréquentais. Il dit, ne t'attriste pas si les gens ne te suivent pas, si tu n'as pas beaucoup de fréquentation. Il dit comme ça, ma'aka rasoul, tu es avec toi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ma'aka sahaba, ma'aka Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. C'est ces gens-là que tu as avec toi. Et là, Allah Azza wa Jal vient de me rappeler quelque chose. Une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre, Ar-Risalatu Tabukiyya, la lettre de Tabouk, un conseil qu'il a écrit dans la ville de Tabouk, quand il était du retour du pèlerinage, il s'est arrêté. Il s'est dit qu'il allait écrire un conseil à des amis à lui qui étaient au Chem. Et ça a porté le nom, la lettre de Tabouk. Dedans, il leur conseille de voyager vers Allah avec leur cœur. Subhanahu wa ta'ala. Et il leur montre quelles sont les causes qui pourront t'aider à arriver à Allah Azza wa Jal. Et parmi ces causes-là, les fréquentations. Et il dit une parole sublime. Il dit, fréquente les gens vivants, même si chez les gens, ils sont morts. Et prends garde à fréquenter les gens morts, même si chez les gens, ils sont vivants. Expliquons cette parole. Il dit, les modèles que tu dois prendre, l'exemple que tu dois prendre, les gens que tu dois suivre, sont les gens qui ont laissé des traces, qui ont laissé des effets positifs, même si physiquement, ils ne sont plus là. Ils vivent parce qu'ils ont laissé. Fréquente les gens morts, même s'ils sont... Fréquente les gens vivants, même s'ils sont morts. C'est-à-dire, fréquente les gens vivants, religieusement, de par tout le khair qu'ils ont, le bien qu'ils ont laissé, même si physiquement ils sont morts pour les gens, ils ne sont plus là. Et fais attention à fréquenter les gens morts, même si pour les gens ils sont vivants. Parce qu'ils sont morts dès lors qu'ils sont loin d'Allah. Ce sont des gens morts, ne les fréquente pas, même s'ils vivent. Ils respirent, ils vivent. Ça te montre la profondeur du savoir des ulama. Et ils savaient les paroles qu'ils prononçaient et la valeur de la fréquentation. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. » L'individu a la même religiosité que celui qu'il prend pour ami. Que l'un d'entre vous regarde bien qui est-ce qu'il prend pour ami. Des fois, subhanallah, il y a des fréquentations. Tu n'as qu'une envie, c'est de ne jamais les voir. C'est la réalité. Juste, tu croises la personne une seule fois, ça y est, médisance, mensonge, problème, éloignement de la salat, éloignement du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il y a d'autres personnes, tu as envie de les regarder. Même de loin, tu as envie de les regarder. Ça qu'on disait de Shafi'i, rahimahullah, je sais plus, de lui ou d'un autre parmi les grands ulama, que un, il disait, quand je le regarde marcher, je pense à Allah, azza wa jalla. Je le vois dans sa démarche, la crainte qu'il a, la piété qu'il a, ça, il me rappelle Allah, cet homme-là. Il y a les niveaux incroyables. Et comme ça, les fréquentations que tu prends, il faut vraiment que tu choisisses tes fréquentations et que tu choisisses les fréquentations de tes enfants si tu as des enfants aussi. Parce que c'est très important. C'est très important. Tu ne dois pas fréquenter n'importe qui. Et pas seulement. Tu ne dois pas laisser ton entourage fréquenter n'importe qui. Parce qu'il y a parmi les gens des gens qui sont un poison. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Prophet عليه الصلاة والسلام dit: la bonne et la mauvaise fréquentation sont comparables aux vendeurs de parfums et aux forgerons. Le vendeur de parfums, soit il t'en vend, il te vend de son parfum, soit il t'en donne, soit au minimum tu ne lui en as pas acheté, il ne t'en a pas donné. Quand tu le quittes, tu te souviens de sa bonne odeur. La mauvaise fréquentation est comme le forgeron. Soit il brûle tes vêtements, soit tu as trouvé chez lui une mauvaise odeur. Subhanallah, il y a des gens, quand tu les fréquentes, ton cœur devient noir. Et il y a d'autres gens, ton cœur revit. En fonction du comportement qu'ils ont, de la religiosité, de ce dont ils parlent. Donc la fréquentation fait partie des plus grandes causes pour faire revivre le cœur. On va s'arrêter là, inchallah. Donc il est 16h, on s'arrête là, inchallah ta'ala. Donc on a fait 5 cours, mais ça n'a pas été suffisant. Je terminerai, inchallah, avec des cours en ligne. Ça sera diffusé sur la voie droite, inchallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.